Bonjour à toutes et à tous. Toute cette semaine, de lundi à vendredi, à 18h sur JetFM 91.2, vous allez pouvoir découvrir la série radiophonique « Pendant que les psys causent », une série de témoignages en 10 épisodes autour des troubles psychiques, portée par le groupe radio du GEM, le Nouveau Cap de Nantes. Les groupes d'entraide mutuelle sont des associations en autogestion à destination des personnes souffrant de troubles psychiques. Ces établissements ont vu le jour en 2005. Ce ne sont pas des lieux de soins, mais plutôt des lieux de rencontre, des lieux où on fait, on pratique, on discute. Et finalement, quelque part, qui soigne. Pendant un an, Emmanuel, Julie, Laurent, Morgane, Pascal et Sacha, accompagnés par Julie Ozou, se sont réunis. Ils et elles ont pensé, écrit et construit cette série. De 25 à 72 ans, ce sont 21 personnes qui témoignent. Des tranches de vie pour écouter et pour mieux comprendre. Des premiers signes des troubles jusqu'au possible rétablissement, en passant par le rapport à la famille, au travail, au traitement, à l'hospitalisation. Des paroles intimes et sensibles pour changer, par l'écoute, son regard. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir l'épisode 7 et 8 sur le rapport à la famille et aux amis.
Fin d'adolescence, là, vers 17-18 ans, ça a commencé à pas du tout aller dans ma vie personnelle.
J'ai fait plusieurs dépressions au cours de ma vie.
Alors j'ai été malade assez jeune, aux alentours de 16 ans.
C'est l'heure des médicaments.
Le monde est une prison où il n'y a ni espoir, ni saveur, ni odeur. Pour ton esprit.
On reconnaît une société à la façon dont on traite les fous.
Pendant que les psychoses, la famille fait face ou s'efface.
Il n'y a pas la folie d'un côté, puis l'intelligence de l'autre. Un type qui n'est pas fou du tout, c'est plutôt louche. C'est une sorte de folie plus grave.
Une série du GEM, le Nouveau Cap, groupe d'entraide mutuelle.
Épisode 7.
En séjour à l'HP, au cours des échanges avec d'autres patients, patientes, je retrouve souvent un dénominateur commun à l'origine des souffrances. Les violences familiales surgissent au hasard des confidences. Maltraitance durant l'enfance, abus sexuels, inceste, violences conjugales. Le lien entre les troubles psychiques et la famille m'a toujours paru évident. Si au cours de ma vie, trop d'obstacles se dressent sur mon chemin, ça fait caisse de résonance avec l'enfant terrifié et inconsolable que j'étais. J'avais peur et ne trouvais pas l'apaisement suffisant, que ce soit avec ma mère ou mon père. Hospitalisée, je sais que je n'aurai aucune visite de ma famille, ni coup de téléphone de leur part. Toutefois, je vois les autres patients, patientes qui reçoivent de la visite de leurs parents, frères, sœurs, conjoints, conjointes. Elles sont là, plus ou moins soutenantes. Elles sont là, s'inquiètent et tentent de rassurer leurs proches en souffrance. Ça m'interroge. Comment s'articule le lien entre la souffrance psychique et la famille? Quel rôle peut jouer la famille dans l'accompagnement d'un proche? Quelle relation avec une famille à l'origine du développement d'un trouble psychique? Ici, Elsa, Valérie et Martin nous livrent leurs histoires.
J'ai commencé à avoir pas mal de mouvements d'angoisse, de colère, de révolte, etc. Mais je me suis canalisée parce que je voulais pas faire de vagues justement dans ma famille. Mais par contre, le mal-être, il ressortait de plus en plus. J'ai perdu mon petit frère. J'avais 7 ans et demi. Il est décédé à 5 ans et demi d'une leucémie. Et en fait, à l'époque, on n'accompagnait pas les fratries. Et je pense que mes parents sont restés ensemble. Ils sont restés soudés. Mais c'était trop pour eux d'accompagner aussi mon grand frère et moi. On a eu en plus un autre petit frère après, enfin, ça a fait un gros nœud en fait, familial aussi là, sur cette espèce d'enfant de remplacement et tout. Et du coup, ça finit par pas pouvoir vraiment se contenir au bout d'un certain temps suite à un accident en fait, physique que j'ai eu. Là, la maladie physique s'est rajoutée à la maladie psychologique, mais ce n'était pas la même. Et là, je pense que mon cerveau, ça a été un peu trop pour lui. Et du coup, j'ai plus ou moins décompensé à ce moment-là. J'ai toujours remarqué que je faisais des crises d'angoisse quand j'étais avec quelqu'un qui était censé me faire du bien et que ça me faisait du mal. Et en fait, mon cerveau, il ne traite pas l'info. À chaque fois que j'ai été dans cette situation-là, j'ai fait des crises où je tombais. Et j'étais consciente, je ne m'évanouissais pas, mais je tombais par terre. Ce n'était pas d'épilepsie, hein, je ne pense pas, mais c'était extrêmement fatigant. Du coup, après, il fallait à chaque fois remonter un peu, me mettre au calme et remonter un peu. Je sais gérer, mais ce n'est pas arrivé depuis très longtemps maintenant. Maintenant, j'arrive à gérer l'anticipation et je suis bien stabilisée là. Donc, mais sans le traitement, c'est trop compliqué. Moi, j'ai commencé à prendre des traitements, ouais, j'avais 20 ans. Quoi. Au début, c'était que du tertian, mais je fumais beaucoup de cannabis et tout. Après, j'ai arrêté. C'est sûr que là, depuis que je prends mes médicaments, je me sens quand même beaucoup plus tranquille. Je sais que quand je les arrête, je suis énervée tout le temps, j'arrive pas à réfléchir, je suis en colère tout le temps. Alors que quand je les prends, je peux mener ma vie normalement, en fait. Par contre, c'est fatigant. Puis je peux quasiment plus lire. J'arrive plus à lire, ça c'est chaud. Je lisais tout le temps avant.
J'étais au lycée, et ben là j'ai senti qu'il y avait des choses qui allaient pas trop, et puis mon entourage me le faisait savoir, mais moi j'étais dans le déni au début, je voulais pas admettre que j'étais malade, et puis les choses se sont un peu empirées. Je suis donc parti de la maison pour des études, et puis après, quand je suis revenu par chez moi, ça allait pas du tout, j'étais en crise, quoi, et je refusais de me faire soigner, et donc il a fallu que je me fasse hospitaliser, en fait. C'est comme dans toutes les familles, je crois, on sait pas trop exactement quand la maladie survient, ce que c'est exactement. Je pense qu'ils sont démunis peut-être un peu par rapport à la maladie et choses comme ça, donc... Il me voulait que du bien, mais moi j'entendais pas à l'époque, quoi. Donc on a donc fait les soins, et puis là c'est là vraiment que j'ai compris certaines choses dans mon comportement qui n'allaient pas. À partir de là, ça a été beaucoup beaucoup mieux. Bon, il y a eu un diagnostic de posée, etc., des soins. Je souffrais de bouffées délirantes, en fait. J'en avais fait plusieurs et c'était très dangereux pour moi, quoi, parce que j'aurais pu... Je perdais complètement la réalité des choses. Maintenant ça va mieux, quoi.
J'ai fait plusieurs dépressions au cours de ma vie. À 23 ans, 6 mois après la mort de ma mère, j'ai fait une tentative de suicide. J'ai été suivi pendant de nombreuses années par différents psychiatres, bon, sachant qu'à chaque fois que je déménageais, je voyais un nouveau psy. Dès qu'il y avait un événement dans ma vie qui n'était pas au top, bim, dépression. Mais comme c'était pas diagnostiqué comme étant bipolaire... C'était juste des épisodes dépressifs, quoi. Et pendant 15 ans, j'ai rien eu. Voilà. Et puis, il y a quelques années, j'ai eu à nouveau des épisodes. Puis là, ça s'est passé en 2018. J'avais une dépression. Ça, c'était au mois de janvier. J'ai été mise sous antidépresseur. Alors, ça se passe toujours en deux phases, hein, les antidépresseurs. C'est un mois, on prend une dose. Au bout d'un mois, on double la dose. Et en fait, j'ai repris le travail au bout de 2 mois. Ma psy a dit tout va bien, on retourne bosser. Et 2 jours après avoir repris le boulot, j'ai fait un accès ou un virement maniaque au travail. Mon cerveau s'est mis à accélérer, je parlais à toute vitesse, j'avais perte de mémoire immédiate, c'est-à-dire je disais quelque chose à quelqu'un, 2 minutes après je répétais la même chose, puis j'étais en état de fébrilité. Mon cerveau, c'est pas qu'il allait trop vite, mais j'arrivais plus à gérer ce que je disais, ce que je faisais, ce que je sentais. Et le soir même, je dormais à Saint-Jacques. Et le lendemain, on m'a dit « Vous êtes bipolaire ». Ça a été une claque quand même, hein, une grosse claque. D'apprendre et d'accepter, il m'a fallu plusieurs années. Là, ça va, je commence à accepter, mais c'est pas toujours facile vu le quotidien, en fait. La maladie impacte le quotidien et ça, c'est pas simple. Pas simple du tout.
Je crois que les deux, trois premiers mois, j'étais vraiment seul. J'avais le droit à un coup de fil de temps en temps ou des choses comme ça. Et puis après, effectivement, peut-être tous les mois, assez régulièrement, il y avait ma famille qui venait me visiter, et puis ou mes sœurs. Et là, on échangeait en famille, vraiment dialoguer avec le psychiatre. Et puis voir comment on peut améliorer, envisager l'avenir... C'était une thérapie familiale, quoi. Donc, là, bon, ben, on a pu mettre les choses au mieux pour moi. Ben, mon entourage, je me suis vraiment, lorsque j'étais pas bien, appuyé sur eux parce qu'ils sont très aidants, très soutenants. Et puis, du coup, je voulais les remercier aussi quand même par rapport à ça. Heureusement qu'ils étaient là, ouais.
Je pensais à ce moment-là pas pouvoir trouver du tout de soutien dans ma famille. Et du coup, de ne pas pouvoir évoquer non plus bah, les douleurs chroniques, et puis que ce soit physique ou mon mal-être psychologique, je savais que je n'allais pas pouvoir être épaulée, puisqu'on n'a pas le droit en fait, d'aller mal dans ma famille, c'est non dit. J'avais quel âge ? J'avais 22 ans, je pense. Je leur ai écrit une longue lettre en leur disant que j'étais hyper mal dans ma vie, que je consommais beaucoup de cannabis, que j'avais des médicaments, que je n'arrivais pas à dormir, que je me sentais hyper mal, et que j'étais hyper en souffrance par rapport au décès de mon frère et tout. Et en fait, ils m'ont moitié convoquée. Et là, ma mère, elle était en larmes. Et mon père, il reprochait de faire pleurer ma mère. Et ils m'ont dit, mais non, mais de toute façon, tu dis n'importe quoi. C'est pas avec le décès de ton frère que t'es mal à l'aise. C'est par rapport à tes fréquentations et tout. Ça va pas du tout. À cette époque-là, j'avais le crâne rasé. Ça leur a pas plu du tout. Et du coup, suite à ça, je savais de toute façon qu'on pouvait pas parler. C'était pas possible. Ils écoutaient pas. Et ils niaient ma souffrance, de toute façon. Donc, mes parents, non, non, il n'y a pas le droit d'aller mal. Hein. C'est une famille, il faut que tout le monde aille bien. On n'a pas le droit de pleurer. J'ai gardé sur moi. Le deuil, il s'est fait bien plus tard, en fait. Je devais avoir quasiment 25 ou 30 ans quand j'ai fait le deuil de mon frère, quand j'ai commencé à être accompagnée par des psychiatres et tout ça. Donc, ça a pris beaucoup de temps.
J'ai voulu parler de ma famille parce que c'est ce qui me semble aujourd'hui être le plus problématique dans ma vie, surtout les relations avec mon père. Mon père, je pense, me juge sur certains points. Je ne corresponds pas à ce qu'on attend d'une femme, par exemple. Une femme, elle ne doit pas faire ceci. Une femme, elle ne doit pas faire cela. Une femme doit être comme si... Non, c'est pas ce que je suis. Moi, je suis une personne libre, je me considère comme telle. Et donc, dans ma famille, j'ai toujours été perçue un peu comme le mouton noir. Mon père, il a ce caractère, peut-être d'une autre époque, et ou peut-être son caractère à lui. Il pense qu'il a toujours raison. De toute ma vie, je ne l'ai jamais entendu s'excuser. Notamment quand il criait sur ma mère, ou quand il crie sur sa femme actuellement. La dernière fois en fait qu'on s'est parlé, il m'a fait avoir une crise d'angoisse au téléphone. Donc depuis ce jour-là, je ne lui parle plus. Pour lui, c'est pas une maladie, c'est ce qu'il m'a dit. Il veut pas en entendre parler. Je lui ai juste dit que j'avais une maladie psychique, que au quotidien ça m'affectait, que je devais prendre un traitement tous les jours. Mais non, c'est... pour lui, c'est pas une maladie. Il accepte pas, c'est tout. Enfin, je pense que c'est même pas une question d'acceptation, c'est une question de compréhension, de connaissance. Il m'a dit des choses terribles, qui ne passent pas du tout. Les dépressifs, c'est pas une vraie maladie, qu'il suffit d'avoir un peu de motivation. Il y a plein de gens qui pensent comme ça. Et ben, c'est pareil pour les troubles bipolaires. Hein. J'ai eu le droit aussi à les psychiatres, c'est des charlatans. Et, ah oui, alors ça c'était le mieux, quand j'ai dit que j'étais handicapée, il m'a dit, ah ben tout le monde est handicapé. Je peux pas supporter ça. C'est ça. Aujourd'hui, ça me fait trop souffrir. Donc, je veux dire, il aurait pu à un moment dire « Ah oui, ma fille, elle a une maladie psychique, je vais aller regarder sur Internet. Enfin, » Et puis après, je lui poserai des questions. Mais non, c'est ce que j'attends de lui, en tout cas, ce que j'attendais de lui. Et j'ai plusieurs fois espéré, et ça s'est jamais fait, donc aujourd'hui, j'ai fait une croix dessus. En même temps, je me suis fait une raison, en me disant que ben, lui, ça changera pas de son côté. Et moi, de mon côté, je ne veux pas retourner vers lui pour la simple et bonne raison que si je retourne vers lui, dans un premier temps, ça ira. Il se remettra à me donner de l'argent, à me faire des cadeaux. Et puis au bout d'un moment, il reprendra ses travers. Il me recriera dessus. Il voudra absolument avoir raison. On va s'énerver tous les deux. Et pour moi, ça va pas, ça. Ça finira par me rendre anxieuse et voire angoissée. Donc non, non. J'en veux plus. Des comportements inadaptés, j'en veux plus. Il est plutôt jeune, je me dis souvent que la prochaine fois que je le verrai, ce sera dans son cercueil.
Au début, je pensais avoir des enfants, et puis bon, malheureusement, la maladie a fait que j'ai dû renoncer à certains projets, revoir un peu ma trajectoire de vie, quoi, donc voilà. Alors on y a pensé, mais on s'est dit bon, ça va être compliqué pour les élever parce que vu nos états de santé, un bébé ça c'est pas si facile que ça et puis on préfère ne pas en avoir quoi. C'est un choix déterminé, abouti, enfin réfléchi, voilà, c'est ça.
Moi, j'ai toujours voulu avoir des enfants. Je me serais bien vu en avoir plusieurs. Alors pour ça aussi, j'ai galéré. C'est ça qui est, des fois, le sort s'acharne. On a mis plus de 5 ans à essayer de l'avoir. Du coup, PMA, des médocs, prise de poids, des tests, des examens, enfin, un truc trop à la noix aussi, quoi. Il n'y a que quand j'ai arrêté mon traitement que j'ai pu tomber enceinte. Bon, bah, par contre, forcément, après, ça n'a pas été un petit peu... C'est là où j'ai été hospitalisée pour la première fois. J'ai été hospitalisée, j'étais enceinte de 2 mois. J'avais un régime spécial femme enceinte au niveau de l'alimentation. C'était super dégueulasse. En fait, j'avais perdu au moins 8 kilos, genre, en un mois. Donc, je suis arrivée très fatiguée et très mal. C'est la gynéco, en fait. J'étais en larmes quand je l'ai rencontrée pour le deuxième mois de grossesse. Et elle m'a envoyée aux urgences psy direct. Du coup, je suis allée là-bas, mais après, j'ai fait que 8 jours. Et après, j'ai repris mon traitement... parce que c'était plus sous-compatible en fin de grossesse et c'était bon, mais il a fallu passer par la case urgence psy et puis Saint-Jacques pour que je le reprenne, quoi. Sinon, de toute façon, j'aurais pas pu réussir à gérer la pression avec ma grossesse et tout. Et du coup, là, je me suis fait recueillir par mes parents et c'est la première fois, en fait, que j'avais l'impression qu'ils étaient dans le non-jugement et vraiment à prendre soin de moi. Du coup, j'y suis restée plusieurs semaines. Depuis ce moment-là de la grossesse, eh ben, du coup, la relation avec mes parents, elle est hyper forte maintenant. Maintenant, on peut parler tout.
Alors, mon fils, déjà, le jour où ça s'est passé, il avait 19 ans. C'était au mois de mars. Il devait passer le bac cette année-là. Je culpabilise en me disant que c'est à cause de moi qu'il n'a pas passé le bac, parce qu'il lui manquait plusieurs semaines de stage, et j'étais pas là derrière pour le pousser. Et alors, c'est peut-être pas vrai, hein, mais c'est ce que je m'imagine. Et puis pendant longtemps, on a eu des relations compliquées parce qu'il comprenait pas la maladie, il voyait pas ce que ça me faisait, les fois où je me mettais en colère, où j'explosais, il comprenait pas mes angoisses. Et bon, là, maintenant, il a 23 ans et ça s'est beaucoup aplani entre nous. Mais ça s'est aplani du fait qu'il a pris conscience que quand on avait des rapports conflictuels, ça influait en fait sur mon bien-être, sur mon état psychique. Moi, il suffit qu'on me crie dessus, je fais une crise d'angoisse. Ouais, c'est compliqué. Compliqué, parfois. Donc, j'essaye de me préserver de tout ça, mais moi, il peut m'arriver... par exemple, je rentre du boulot à vélo, il suffit qu'il y ait une voiture qui me klaxonne parce que je roule pas assez vite, parce que je suis pas au bon côté. Je rentre chez moi, je suis comme ça. Je tremble. Donc, c'est pas évident par moment. J'ai fait un ETP, ça s'appelle l'éducation thérapeutique du patient. Donc ça s'adresse à toutes les personnes qui souffrent de maladies chroniques, pas que des maladies psy, avec 10 autres patients sur les troubles bipolaires. Donc on apprend plein de choses. Et il y avait une partie où on pouvait venir avec la famille. Et j'ai essayé de convaincre mon fils, parce que ça me faisait beaucoup de bien, mais il n'a pas voulu.
Après, je t'ai suivi au HOME, c'est un centre spécial pour... les femmes soit enceintes, soit qui ont eu un enfant de moins de 1 an avec des infirmières psy, médecins psychiatres, puéricultrices. Et du coup, j'ai été là-bas dès le début de ma grossesse, en fait. Après, j'étais en ambulatoire. J'allais une fois par mois voir la sage-femme. Et après, quand j'ai accouché, je suis allée là-bas. Mon fils, il avait 3 semaines et j'y suis restée jusqu'à ses 5 mois et demi. Je faisais entre 3 et 5 jours là-bas, suivant les semaines. Mais c'est pareil, là-bas, à un moment donné, j'ai fait une crise parce qu'ils m'ont forcé à arrêter l'allaitement et j'avais pas du tout envie. Pour que je remonte mon dosage de médoc parce que c'était plus assez fort et c'était pas compatible avec l'allaitement. Et du coup, là, j'avais pas du tout envie. C'était hyper dur. Là, j'ai refait crise. Du coup, ça a que envenimé leur truc. Ils ont que encore plus cru que j'étais pas en capacité de le faire. Mais après, j'étais trop mal, donc je les ai remontés, mais j'avais pas envie d'arrêter l'allaitement. Et d'ailleurs, au début, je voulais pas donner le biberon à mon fils. C'est mon copain qui a pris le relais. Même la nuit, du coup, j'ai arrêté complètement. Je voulais pas lui donner le biberon. J'avais encore du lait et tout. C'était pas possible. C'était trop dur, cette partie-là. C'est pas des bons souvenirs.
Ça m'arrive de gueuler, de moins en moins. Et moi, contrairement à mon père, d'abord, je sais reconnaître quand j'ai tort. Et deuxièmement, je sais m'excuser. On a appris aussi à se dire je t'aime. C'est vachement important. Mon père ne m'a jamais dit je t'aime de toute ma vie.
En fait, j'avais trop l'impression qu'il allait devenir psychotique comme moi au début. Bon, là, je crois qu'il est tiré d'affaire. Au moins pour l'instant. Le psychiatre, il me demandait l'autre jour. Je lui dis, ouais, j'ai tout le temps peur pour lui et tout. Il me dit, mais vous savez très bien que vous n'avez pas été élevé comme ça. Je dis, mais si. Je dis, mais moi, ma mère, elle a perdu un enfant. On était tout petits encore. J'ai été élevée par une femme qui a perdu un enfant. Il y a un jour de l'école, j'ai juste pris une minute de plus parce que j'ai pris une rue plus loin que l'autre. Je suis arrivée et je me suis fait retourner la tête par une baffe, mais monumentale, parce que j'avais mis trop de temps à rentrer. Et ce genre d'épisode-là, il y en a eu plein. J'ai été élevée comme ça, dans la peur continue qu'il nous arrive un truc, même maintenant, à notre âge. Du coup, je dois tout relativiser à chaque fois, à prendre sur moi, à me dire, bah, tes angoisses, les projette pas tout le temps, parce que moi, j'ai vécu ça. Ma mère, elle est comme ça maintenant, et je pense que le fait de l'accepter aussi, comme elle était, ça lui a permis de m'accepter aussi un peu moi comme je suis, et qu'on apprenne à mieux cohabiter ensemble, et tout ça. Mais maintenant, c'est chaud, parce que j'ai tout le temps peur qu'il lui arrive un truc. Enfin, en fait, maintenant que je suis maman, je prends conscience de ce que ça me ferait si mon fils y mourait. Mais j'imagine même pas continuer ma vie, hein, c'est pas possible. J'ai des sentiments d'étrangeté là, à certains moments, et pas mal en ce moment, du fait qu'il soit différent de moi. En fait, là, je suis en train de prendre conscience du fait qu'il a sa propre personnalité et qu'il peut vivre sans moi. Et du coup, c'est hyper dur. Parce que du coup, ça veut dire que s'il vit sans moi, je peux pas le protéger de tout. C'est hyper dur. Mais en fait, j'en ai conscience. Donc c'est ça qui est hyper chaud. J'intellectualise beaucoup trop tout le temps, c'est trop fatigant.
C'est essayer de se me remettre en question aussi. Parce que dans ma vie, j'ai été jugée par les autres. Beaucoup. Et ne pas culpabiliser, c'est très difficile. À une époque, j'avais des problèmes de poids. Je culpabilisais de manger. Et en matière d'alimentation, quand vous culpabilisez, vous remangez. C'est un cercle infernal. Donc, je culpabilisais quand j'arrivais en retard au travail. Donc, il y a plein de raisons de culpabiliser et de pas se sentir bien pour raison X, Y. Moi, aujourd'hui, je suis pas centrée sur ces questions. Je pense juste à mon quotidien, à essayer d'être bien, à vivre avec cette maladie, en fait. Mais c'est quand même un handicap. Ça influe sur ma vie de tous les jours. Ça, il faut le reconnaître. Je peux pas faire sans.
J'ai vécu plusieurs choses au GEM et puis on a proposé à papa s'il voulait intégrer l'association, le conseil d'administration, l'association parrain et tout ça. Et papa s'est impliqué dedans. Et du coup, ça permettait dans ce lieu-là d'être à la fois à ma place, en famille aussi, et puis de faire avancer un peu cette aventure du GEM.
J'ai pris contact avec une asso qui s'appelle les Pâtes au beurre, qui accompagne justement en fait les parents, que ce soit maman, papa ou couple, autour des questions de la parentalité. Et là, j'y suis allée déjà 5 fois, et c'est un vrai appui aussi pour traiter ces questions-là, de devenir parent, devenir maman, avoir un petit enfant, bébé, enfant, ado et tout ça. Et du coup, ça m'apporte en fait. Donc finalement, c'est encore un lieu de soin en quelque sorte. Mais par contre, ça vient accompagner les questions, d'autres questions aussi. On est même allés tous les trois pour se rassurer aussi, se dire que lui, il allait bien et qu'il grandissait bien et que j'avais beau être malade et son père pas très présent, on arrivait à répondre à ses besoins et à gérer les choses. Et du coup, ça, c'est rassurant aussi, ouais, vraiment.
La famille, c'est très important pour moi, c'est un peu comme un socle, c'est un des maillons essentiels qui fait qu'on peut vivre correctement, on peut s'épanouir, on peut avoir une vie de citoyen et puis d'avoir des liens ordinaires.
On peut faire des règles générales sur chaque maladie psy, mais chaque malade est particulier.
Je pense que le chemin de thérapie que j'ai fait, finalement, il sert à tout le monde aujourd'hui.
J'ai dû me battre souvent, et il y a eu des fois où je me sentais vraiment à plat. Mais j'ai toujours continué à avancer, en fait, à gérer mes difficultés.
Moi, j'ai pas l'impression de louper des trucs. J'ai l'impression de créer beaucoup d'occasions, de passer du bon temps ensemble. Et ça me fait du bien.
Au creux de mes rêves, mon cœur se ronge à vouloir une trêve d'une réalité dans un songe. Décrypter les formes de pensées ressassées, au sommet dorment des soleils insensés, décrochés de mes souhaits. Quand je n'étais qu'un enfant, faire le deuil des fées, des projections des parents, que retournent à la une les diamants de mes yeux, pour que d'autres les usent et rebrillent de mille feux, et descendre des nuages, enfin libre et présent, la raison de mon âge et ses précieux moments, et descendre des nuages, enfin libre et présent, la raison de mon âge et ses précieux moments.
À suivre, épisode 8, des amitiés valses, d'autres entrent dans la danse.
Ces relations, elles peuvent aussi te sauver la vie ou alors venir accentuer les symptômes, quoi. Les symptômes de détresse, d'angoisse, de dépression. C'est l'un ou l'autre.
C'est l'heure des médicaments.
Le monde est une prison où il n'y a ni espoir, ni saveur, ni odeur. Une prison.
On reconnaît une société à la façon dont on traite les fous.
Pendant que les psychoses, les amitiés valsent, d'autres entrent dans la danse.
Il n'y a pas la folie d'un côté, puis l'intelligence de l'autre. Un type qui n'est pas fou du tout, c'est plutôt louche. C'est une somme de folie plus grave.
Une série du GEM, le nouveau cap, groupe d'entraide mutuelle.
Épisode 8.
Ami, tu me gardes comme je suis. Mais le serpent siffle autour de ta douce effigie sympathique. On dit que ta valeur est éternelle, comme si tu régnais sur la vie et la mort, qui exhale son souffle lugubre comme lors d'un effondrement psychique pour t'éloigner de moi en raison de la disparition de l'esprit que tu connaissais. Mais est-ce moi qui suis tombé malade, ou les torts sont-ils à partager? On dit beaucoup de choses sur toi. Entre autres, que tu n'étais plus là quand tout s'est écroulé autour de moi. On a tendance à s'en foutre. Tu étais aussi l'ami de quelqu'un d'autre. Depuis, ma folie a rencontré d'autres folies, avec qui on a des désordres communs. Mais le passé revient toujours au présent, paraît-il. Le futur le dira. Tanguy et Margot nous parlent de leurs sentiments et de leurs ressentiments.
J'ai fait une bouffée délirante il y a un an de ça, du coup. Ça a duré à peu près 2-3 mois, vraiment, le cœur de la bouffée délirante. Et après, ça a pris un peu de temps à rétablir et à me remettre, quoi. Avec le recul, je dirais qu'il y a eu 6 mois avant vraiment la bouffée délirante où j'ai commencé à avoir des symptômes qui sont apparus. C'était une période où je fumais beaucoup de cannabis. Enfin, même pas beaucoup, en fait, mais régulièrement, en tout cas. Avec la consommation, il y a eu des symptômes qui sont apparus, puis qui après qui sont devenus de plus en plus récurrents, de plus en plus intenses. Mais moi, je les identifiais pas comme des symptômes. En fait, je pensais que c'était même que j'étais juste plus sensible à certaines choses. Je pensais que j'étais, voire même, je pensais que j'avais des pouvoirs à des moments, en fait. En arrivant à Paris, pour le coup, je me suis dit que j'allais arrêter le cannabis, mais en fait, ça a pas suffi parce que j'ai encore eu des symptômes. Enfin, je marchais dans la rue, j'avais l'impression que tout le monde me regardait. Dès que j'entendais une phrase dans la rue ou j'avais l'impression que ça parlait de moi. Dans la conversation, j'avais l'impression que tout le monde parlait de moi. Et c'était de plus en plus présent. Je devenais complètement parano, en fait. Et sans cannabis, c'était de plus en plus difficile de suivre mes études. Et à un moment, j'ai carrément fait une dépression. Je me suis enfermé chez moi. Et là, pour le coup, j'ai eu la très bonne idée d'acheter de la drogue, enfin du cannabis. Et donc, j'ai fait que fumer. Et c'est là que ça, tout a commencé, là, en fait. Que je suis vraiment parti en vrille et que ça a duré 2 mois, quoi.
Il y a eu un moment, j'étais quand même très fatiguée et je ne comprenais pas pourquoi. Et j'avais une opération de prévue, mais une opération complètement bénigne. Mais c'était en ambulatoire et il fallait quand même qu'il y ait quelqu'un qui vienne me chercher. Et elle m'avait dit, elle a bossé en indépendant, elle m'avait dit « Oui, bah, je réserve ma journée pour pas que tu te retrouves seule. » très franchement, ça ne m'inquiétait pas, mais je me disais, ouais, il faut faire attention, quoi. Je ne peux pas non plus me taper une heure et demie comme ça de transport après une opération, en sachant que c'est une clinique privée qui ne garde pas. Et il s'est trouvé que la veille de cette opération, j'ai eu un dégât des os. En gros, j'étais complètement virée de chez moi. Et que, genre peut-être 2 jours avant cette opération, elle m'a annoncé que finalement, elle avait accepté une mission. Et c'est là où j'ai dû trouver quelqu'un d'autre, en deux-deux, pour venir me chercher. Et c'était la personne chez qui je suis allée dormir. Dès le dimanche soir, l'opération était le lundi, parce qu'en même temps, j'avais le dégât des os. Donc c'était un peu chargé. Et il se trouve que cette opération s'est très très mal passée. Enfin, le réveil de l'opération, il s'est très mal passé. Quelque chose que j'aurais jamais imaginé. J'y allais très très à la cool. Et je suis ressortie, c'était une catastrophe. Mais vraiment une catastrophe. Et moi, je me suis retrouvée dans un véritable cauchemar, quoi. Je me suis réveillée de cette opération dissociée. Ça m'est arrivé, mais quasi 20 ans auparavant. Hein. Ça ne m'était pas arrivé sinon. J'arrivais même pas à marcher. On m'a laissé sortir comme ça. Après, je me suis renseignée, je ne suis jamais retournée voir la clinique privée, mais je pense que c'est la kétamine, un anesthésiant qui crée ça et qui est quand même utilisé en intraveineuse, et c'est en intraveineuse. En tout cas, la kétamine, c'est clair et net, elle dissocie. Elle dissocie. Donc après, si la personne elle a vraiment un trauma à ce niveau-là, ça le réveille.
Moi, c'était des émotions très fortes déjà, des idées qui s'accélèrent beaucoup et du délire total. En fait, c'est un moment où j'ai eu l'impression de commencer à parler par télépathie. Et donc, j'ai passé 2 mois à essayer de résoudre tous les problèmes qui se posaient suite à ça dans ma tête. Parce que j'avais l'impression d'être connecté avec le monde entier par télépathie, d'avoir plus aucune pensée pour moi. Et donc, que tout ce que je pouvais penser, ça allait vraiment dans tous les sens. Je passais par toutes les émotions. Des fois, je me sentais surpuissant, j'avais l'impression d'être une sorte de demi-dieu, quoi. Et d'autres fois où j'avais par exemple très 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 peur, enfin j'étais terrorisé pour des trucs de moi, de ma propre pensée, en fait. Enfin, ça allait un peu dans tous les sens, mais c'était très intense.
Et la mise en question, elle est passée vivre le soir, elle a vu que, vu dans l'état où j'étais, elle allait pas pouvoir me ramener dans son appartement où il y avait 6 étages à monter, et je me suis retrouvée dans cet appart bloquée parce que je pouvais même pas sortir seule de cet appart dans l'état où j'étais. Et je me suis sentie mais complètement abandonnée, quoi. C'est violent de se prendre ça, quoi, parce que moi j'avais franchement l'impression d'être une machine à produire, quoi, d'être aimée tant que tu produis, tant que t'es un bon cheval, et le jour où tu te ramasses la gueule, tu vaux plus grand-chose, finalement. Et que cette amie en question, je voyais qu'elle elle recommençait, en fait, ce genre d'acte. C'est-à-dire, dès que pour elle, c'est gênant, ou... Enfin, en fait, elle n'était pas là. Elle n'était clairement pas là. Je trouve ça tellement horrible. En fait, je ne peux pas comprendre ces actes. Alors, effectivement, je les condamne.
Avec mes amis, ça a été problématique. Pareil, quand je disais les 6 mois avant la bouffée délirante... où je commençais à avoir des symptômes, où en fait, là, je commençais à devenir assez colérique, assez agressif. Je me suis embrouillé avec pas mal de personnes, et même avec mon frère. Et donc, en fait, mes amis comprenaient pas trop ce qui se passait. Ils se disaient que je fumais trop de joints, mais ils voyaient pas plus que ça. Ils s'étaient jamais dit que je pouvais avoir des problèmes psy, en fait. Et donc, il y a eu plusieurs moments comme ça, un peu où je disais des trucs très déplacés, où j'étais... où vraiment ils sentaient qu'il y a un truc qui allait pas, quoi, avec moi. Ils avaient pas forcément connaissance, en fait, des problèmes psy. Et en fait, c'est au moment où j'ai fait ma bouffée délirante que là, mes parents, quand ils s'en sont rendus compte, ils ont alerté mes amis, qui ont donc compris, en fait, ce qui se passait. Suite à ça, j'avais un week-end de prévu avec mes amis, donc qui sont venus, mais ils pouvaient rien faire pour moi, en fait, sur ce moment-là. Ils pouvaient tout juste me soutenir, mais moi j'étais vraiment ailleurs, j'étais vraiment pas réceptif. Donc à ce moment-là, ils étaient présents, donc ça m'a fait plaisir, en fait. Mais ils pouvaient rien pour moi.
Et il y a une amie qui a réalisé, mais au bout de 4 jours, et elle s'est dit, mais il y a un problème, quoi. Enfin, elle est venue me voir et elle a constaté les dégâts et elle a pas compris, quoi. Elle a halluciné, quoi. Et parce que pendant 4 jours, j'étais vraiment coupée en deux. Et ça a été vraiment un gros traumatisme. Et c'est là où ça a commencé. J'ai commencé à refaire des crises d'angoisse, des choses qui m'étaient pas arrivées depuis plus de 10 ans, tout ça. Bah, je crois que voilà, si les amis se manifestent, enfin juste écouter et faciliter, quoi, les choses, aider, ne serait-ce que dans nos urgences. Hein, c'est des trucs cons, mais voilà. Alors c'est ce qui s'est passé aussi. Hein. Donc une amie, c'est ce qu'elle a fait. Et enfin, je lui suis extrêmement reconnaissante. Elle est venue au petit matin, à 7h du mat. J'avais envoyé un texto dans la nuit sur Messenger. Je n'ai pas envoyé 10 000 hein, des SOS. Hein. Quand je l'ai envoyé, c'est que je n'avais vraiment pas le choix. Et c'est elle qui s'est manifestée parce qu'elle avait une insomnie. Et elle arrivait à 7h du mat. Et à 7h du mat, on a organisé tout ça pour aller aux urgences. Tu vois. Je me suis quand même pas mal isolée, quoi, parce qu'après, j'ai vraiment été dans la dépression, donc je me suis beaucoup isolée. Et puis, j'ai pas eu envie, en fait. J'ai vraiment pas eu envie de me créer forcément de nouveaux amis, quoi. J'ai vraiment eu besoin de m'isoler, au contraire. J'ai eu au moins 2 ans où j'ai arrêté. J'ai été extrêmement méfiante des gens. En fait, moi, ça m'a complètement... J'étais pas du tout comme ça, en fait. J'étais pas du tout quelqu'un de méfiant. J'ai pas envie de m'investir dans une relation où je peux être déçue. S'il y a des choses où je vois que voilà, moi ça je n'en veux plus, je coupe direct, en fait. Enfin, c'est pas j'ai été consultée, je suis tombée sur une psychiatre avec qui j'ai beaucoup travaillé sur la question. Et moi, c'était très dur pour moi parce que je me disais, qu'est-ce qu'on accepte et est-ce que c'est moi le problème? Qu'est-ce qu'on accepte? Qu'est-ce qu'on n'accepte pas? Et j'étais très longtemps là-dedans. Et aujourd'hui, je me dis, ouais, enfin, non, en fait, j'accepte pas ça. Enfin, et ça a été plein de petits actes comme ça, banals, mais très violents, en fait, très violents, parce que on peut pas faire comme si. On peut pas faire comme si c'était rien. En fait, je pense que l'amitié, ça fait aussi caisse de résonance avec la famille, avec ce qu'on a vécu enfant. Et qu'il y a beaucoup de choses qui étaient enfants, des abus, injustes, tout ça, qu'en amitié, forcément, je suis très... c'est-à-dire, je vais faire très attention. Ma mère m'accepte que si je vais bien. Si je ne vais pas bien, mais voilà, je peux crever, je peux... Elle ne viendra pas, en fait, elle ne lèvera pas le petit doigt. Et donc, forcément, je ne peux absolument pas aller vers des amitiés qui vont fonctionner de cette façon. Vas-y, tu peux crever la gueule ouverte, on s'en fout. Ça ne va pas, enfin, en fait, si ça ne va pas, ce n'est pas notre problème, en fait. Si ça ne va pas, nous, on n'a pas de relation à avoir avec toi. Par contre, si ça va bien, si, ça peut nous intéresser. Et ça peut, enfin, c'est pas ça peut, ça me met hors de moi, les personnes qui fuient. Ça, vraiment, je ne supporte pas. Enfin, je n'ai pas envie, moi, d'être clémente avec ça et de donner raison.
Je me sentais très fatiguée, assommée. Ça, je pense qu'il y avait une part de l'après-choc, quoi. Et une part de médicaments aussi, qui essayaient de maintenir, de contenir les pensées. Je tenais pas du tout l'alcool. Ça me mettait dans un état très désagréable, l'alcool. Et surtout, en fait, je me repliais sur moi-même et j'avais... Bah disons que je suis quelqu'un pas forcément très causant, et là c'était vraiment pire, quoi. Pendant toute la durée de l'hospitalisation, j'étais dans le déni total, et en étant hospitalisé à domicile, c'est là que j'ai commencé à petit à petit comprendre ce qui m'arrivait, en fait, aussi grâce aux médecins qui m'ont permis de mettre des mots dessus, etc., et aux médicaments, je pense, qui m'ont aidé à redescendre. Et donc ça s'est fait progressivement que j'ai réussi à comprendre que j'avais fait en fait un épisode psychotique, ou enfin une bouffée délirante aiguë, comme on dit. Mais c'est vrai qu'au moment où j'ai commencé à comprendre ce qui m'arrivait, du coup ça a été la dégringolade en même temps, grosse dépression, quoi. Je me suis beaucoup renfermé sur moi-même, et j'avais beaucoup de mal à ressortir, en fait, à dès qu'il y a un contexte de relation sociale, en fait. Je me repliais sur moi-même et je le vivais très mal, en fait, quand je retrouvais du monde dans un contexte social. C'était très difficile. Pendant des moments, je m'isolais, ouais. Ouais, ouais. Et je pense que c'était important aussi. Et en fait, ils étaient compréhensifs, ils me soutenaient. Et mes amis ont été importants, je dirais, au cœur de ma crise, mais aussi pendant toute la phase de rétablissement, en fait, où ils étaient assez présents. Bah, rien que le fait de ne pas m'avoir lâché à ce moment-là, en fait, dans les moments où je n'utilisais plus rien, ou des choses comme ça, je suis reconnaissant. Avant, je me sentais un peu, enfin, dans ma phase où je partais en vrille, là, je me sentais un peu tout puissant et donc j'avais besoin de personne et je m'embrouillais avec les gens parce que j'avais l'impression qu'ils faisaient tout mal. Que maintenant, j'ai compris que j'étais vulnérable, j'ai compris la valeur de mes amis quand ils étaient là, ils me proposaient encore des sorties, des choses alors que moi j'allais pas bien. Et donc aujourd'hui, de pouvoir avoir ces gens-là avec moi et qu'ils m'ont pas lâché quand ça allait pas, je sais que c'est une force, quoi.
Et je voulais aussi dire, à l'HP, à l'hôpital psychiatrique, je trouve qu'il y a quelque chose qui se passe entre les gens. Enfin, moi, qui m'étonne beaucoup. Et ça ne va pas être la vie de tout le monde, donc là encore, c'est subjectif. Mais on ne peut pas vraiment parler d'amitié parce que les gens, bon, ils veulent aussi passer à autre chose, donc ils ne vont pas forcément se revoir. Certains se revoient, peuvent, pourquoi pas, créer des amitiés sur le long terme ou pas du tout. Mais en tout cas, ce qui se crée sur les lieux, ce côté grande solidarité, entraide, où la mixité, on va beaucoup en parler dans notre société, elle n'a pas vraiment lieu, à mon sens. Mais alors là-bas, pour le coup, avec la sectorisation, ce sont des gens qui ne se rencontreraient pas du tout sinon, à part, je ne sais pas moi, aux arrêts de bus, aux arrêts de tram. Jamais ils n'auront à faire ensemble, c'est-à-dire dans le même cadre, avec les mêmes règles, qui sont dans les mêmes conditions, mais pour un temps. En sortant de l'hosto, tout le monde va retrouver un peu sa place, hein. On va dire que ce sont des amitiés brèves pendant l'hospitalisation, mais qui sont extrêmement fortes, et je les trouve beaucoup plus fortes, en tout cas pour moi, que le rapport soignant-soigné. Et que s'il y a une thérapie, en tout cas, qui a vraiment lieu, je trouve que c'est entre les gens. Il n'y a plus de jugement, que ce soit les catégories sociales, que ce soit les différentes cultures, les différentes pathologies. Alors, je peux me planter, hein, mais je trouve quand même que c'est un sacré mélange. Il se passe vraiment quelque chose entre les gens et qui est assez magnifique, quoi.
Emmène-moi dans la nuit, absorbe la noirceur, imprègne-toi de la folie, d'un rire mu par la peur, des caresses, des baisers, il ne reste que l'angoisse qui t'alite, dans ce décor la rosée t'enveloppe et te délite. Quant à la recherche absolue de l'ivresse, quête évolue de la jeunesse, que ta renaissance soit aussi divine que l'essence de tes origines. Enfonce-toi dans la nuit, absorbe la noirceur, imprègne-toi de la folie, d'un rire mu par la peur, des caresses, des baisers, il ne reste que l'angoisse qui t'alite, dans ce décor la rosée t'enveloppe et te délite. Quant à la recherche absolue de l'ivresse, quête évolue de la jeunesse, que ta renaissance soit aussi divine que l'essence de tes origines.
À suivre, épisode 9, Les amants s'aiment, le trouble. C'était Pendant que les psychoses, une série documentaire de l'atelier radio du GEM Le Nouveau Cap. Un grand merci à toutes les personnes qui ont témoigné. À Malo et Olivier Noël pour la musique, à la chorale de 4 heures, à Élise pour le visuel, à Clémence et tout le GEM Le Nouveau Cap. Merci enfin à Jet FM et la Fondation de France pour leur soutien. Si vous souhaitez organiser une écoute de certains épisodes et un échange avec le groupe dans votre structure médico-sociale, culturelle ou scolaire, n'hésitez pas à contacter le GEM Le Nouveau Cap. Demain, vous pourrez entendre le 9e épisode sur le rapport à l'amour et à la sexualité, et enfin, le tout dernier épisode sur le rétablissement. Vous pouvez également retrouver tous les épisodes sur Castopod en tapant Jet FM pendant que les psy. psychose. Bonne soirée sur Jet.